Bonjour et bienvenue dans ce 10-10 spécial mois de l'économie sociale et solidaire. Partout en France, en novembre, on s'intéresse aux associations, coopératives et mutuelles pour comprendre ce qu'elles apportent à notre société, une économie et des services du quotidien dans tous les secteurs de la vie de tous les jours, avec des bénévoles mais également beaucoup de salariés pour faire fonctionner ces entreprises, pas comme les autres. 13 émissions sur l'antenne de FM+, consacrées à des acteurs du territoire de Montpellier et de la métropole. C'est le mois de l'ESS et c'est donc une série d'émissions que nous commençons aujourd'hui avec Maria Elou, avec qui nous allons accueillir dans un instant Sarah Rousseau, la directrice de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et quelques minutes après, Caroline de Ruic, qui est la présidente de Créalid, une coopérative d'activité et d'emploi. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Lou.
Mais bonjour.
C'est Yann qui est à la technique et à l'autre bout du fil, quelque part on ne sait pas où, il y a Sarah Rousseau qui rentre de Bordeaux. Bonjour Sarah.
Bonjour.
On rentre de Bordeaux, parce que ce week-end, il y avait un événement mondial, n'ayons pas peur des termes, c'était le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Une très belle façon de commencer ce mois de l'économie sociale et solidaire en France, non?
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui en est sorti de ce forum? C'était, je crois, près de 10 000 participants. C'était à Bordeaux, avec un communiqué final qui parle de plein de recommandations, en tout cas de remarques faites aux différents niveaux de collectivité, et en particulier au niveau local. Qu'est-ce que vous attendez, le secteur de l'économie sociale et solidaire, du niveau local, c'est-à-dire des communes, des intercommunalités, des départements et des régions?
Alors peut-être je vais me permettre, si tu m'y autorises Jean, avant de répondre à cette question, de dire à nos auditeurs ce qu'était le GCF. Effectivement, c'était le sommet mondial de l'ESS, précédente édition il y a 2 ans à Dakar. On a appris que la prochaine édition en 2027 se ferait au Brésil. Et on a été les premiers heureusement surpris de la mobilisation énorme sur ce congrès où on a eu plus de 10 000 participants, 109 nationalités réunies pendant 3 jours avec une centaine d'ateliers consécutifs, de parcours d'ateliers d'échange et des plénières très riches. Il en est ressorti une vraie communion internationale en faveur de l'ESS et on a pu croiser à la fois sur ce que l'ESS a apporté au territoire et sur nos inquiétudes très fortes, multicontinentales, sur les changements du monde, la place de l'ESS, mais aussi les menaces. Je dis au passage parce qu'on a vécu aussi quelque chose qui nous a mis très en colère et qui est potentiellement une illustration de nos inquiétudes pour le changement de la politique, en tout cas en France. C'était un forum international avec des délégations de tous les pays et on a eu la très désagréable surprise de se voir privé de la contribution précieuse de nos homologues africains, puisqu'on a près de 100 visas de délégations africaines qui n'ont pas été délivrées par nos administrations françaises. On a appris en bout de course que 2 des participants au moins avaient réussi à rejoindre le territoire français pour ne pas participer au GCF, mais pour être enfermés en centre de rétention administrative. Donc c'est une vraie colère qu'on partage aussi. On était ravis de la dynamique internationale et honteux en tant qu'organisateurs français auprès de nos collègues des délégations africaines des conditions dans lesquelles l'administration française a étudié et refusé leur participation à un forum mondial. Et pour pouvoir discuter de manière mondiale des sujets de l'ESS, quand on ne permet pas aux délégations de rejoindre un sommet, eh ben on coupe une partie de nos travaux, de leur richesse. J'étais un peu longue, mais c'était important. Ceci étant dit, le Forum de Bordeaux a pu aboutir à une déclaration finale que je vous invite à retrouver sur le site du GCS.
Et qu'on mettra sur le site de la radio.
Sur le site de la CRES. Exactement. On repose en tout cas, nous en tant qu'acteurs internationaux et acteurs locaux, l'importance pour nos États de continuer à adopter des cadres réglementaires qui reconnaissent l'ESS et à pouvoir soutenir, notamment via du financement, leur place importante dans les politiques économiques et les politiques d'intérêt général locales. Et cela doit bien sûr se décliner au niveau de ce qu'on a appelé les gouvernements locaux, mais en tout cas chez nous en France, les collectivités territoriales ont bien sûr un rôle à jouer pour soutenir et appuyer le développement de l'ESS.
Dites-moi, Sarah, comment ça se passe au niveau du mois maintenant d'économie sociale et solidaire en France? Au fond, c'est une manifestation qui a déjà plus d'une dizaine d'années. Pourquoi un mois complet consacré à ça? C'est vraiment un plaidoyer important à tenir?
Alors, un mois complet consacré à ça, pour la petite anecdote, parce que je la trouve savoureuse, c'est novembre, parce qu'on s'est dit que novembre était souvent un mois gris, où on avait besoin d'être un peu réconforté. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui à Montpellier, c'était le cas hier, et que c'était le moment de découvrir des initiatives positives. Cette opération de communication large permet pendant un mois de valoriser des événements dans nos structures de l'ESS, qui permettent au grand public et aux citoyens de venir découvrir qui on est, ce qu'on fait, au travers d'événements qui sont enregistrés dans un agenda collectif qui est sur le site du mois de l'ESS.org.
Bonjour Sarah, je suis... Bonjour Sarah, je suis Maria, donc je participe à cette émission. Je suis animatrice dans cette radio habituellement. Je vous écoute depuis le début, je trouve ça tout à fait passionnant, mais je me dis qu'il y a plein d'auditeurs qui ne savent pas du tout ce que c'est l'ESS, économie sociale et solidaire. C'est la base de savoir au moins de quoi on parle sur l'instant où on écoute le type de propos que vous tenez et qui sont parfaitement intéressants. Mais c'est quoi l'ESS, économie sociale solidaire? Comment ça se...
Qu'est-ce que c'est? Bien sûr.
C'est la base.
Dites-nous, Sarah.
Alors, l'économie sociale et solidaire, vos auditeurs la connaissent sans la connaître.
Voilà.
Mais gageons qu'à la fin d'un mois de l'ESS, avec, je crois, des aides d'eau de votre part sur le sujet, ils sont de grands spécialistes, vos auditeurs les connaissent sans la connaître parce qu'on va prendre des exemples de la vie quotidienne. Pour faire du sport, leurs enfants sont inscrits dans une association sportive ou de musique. Eux-mêmes sont peut-être bénévoles d'une association de solidarité et consommateurs, si le mot est un peu moche, de culture dans des festivals. Cet été, on peut vivre des festivals un peu partout sur les territoires. Par ailleurs, via leur employeur, ils ont une couverture santé complémentaire et elle est peut-être mutualiste. S'ils sont à la NGEN, à Harmonie Mutuelle, sur le groupe Vive, à la Maïf. Ils consomment peut-être, ils ont peut-être acheté des verres Duralex récemment, qui sont produits par une coopérative. Tout ça pour dire que l'économie sociale et solidaire est très présente dans la vie des Français. Ce sont des formes économiques de production de biens et de services importants, d'intérêt général, qui ont pour spécificité d'être portées par des entreprises collectives, avec de la démocratie interne et une gestion de la lucrativité qu'on va dire chez nous limitée, c'est-à-dire que la valeur dégagée par l'activité économique est réinvestie au service du projet.
Très bien. Et quand vous dites économie...
Concrètement, c'est les associations, les mutuelles, les coopératives.
Les fondations ?
Les fondations.
D'accord. Donc, quand vous dites ça, vous parlez d'économie. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente, j'allais dire tout bêtement, en chiffres? Est-ce que c'est lourd dans l'économie française? Est-ce que ça a une véritable importance? Est-ce que ça mérite d'être défendu et sur le plan philosophique de ce que vous venez de nous dire, mais aussi sur le plan purement économique?
Et qu'est-ce que ça représente en Occitanie?
Alors, au niveau français comme au niveau occitan, en grosse masse, c'est 15% de l'emploi privé, de l'emploi hors administration publique. Donc, oui, ça pèse. J'ai pas là sous les yeux les chiffres, mais pareil, je pourrais vous les envoyer, Jean, en Occitanie. Mais sachez qu'on est 15% de l'emploi privé en Occitanie avec des valeurs sociales à forte valeur ajoutée.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je décode tout. Hein. Allô?
Ok. C'est une crèche associative. C'est le soutien aux plus vulnérables, personnes en situation de handicap, personnes en vieillesse. C'est ce qu'on va appeler l'éducation populaire, tous les espaces de délibération, d'accès à la culture, les radios associatives.
D'accord. C'est ce que vous appelez la forte valeur ajoutée?
Oui.
D'accord.
Et alors en Occitanie, donc, un mois complet avec des rendez-vous un peu spectaculaires, un peu grand public que vous organisez et que vous allez proposer ce mois-ci?
Alors, un rendez-vous un peu spectaculaire sur le bassin de Montpellier le 18 novembre. Et je vous invite à regarder ça de plus près. Vous pouvez vous inscrire encore à un événement qui aura lieu au Pôle Réalis, plutôt si vous êtes une structure de l'économie sociale et solidaire et que vous souhaitez rencontrer des financeurs de l'ESS. C'est un événement qui a été créé avec la Caisse d'épargne et les banques de l'ESS et les financeurs de l'ESS pour pouvoir échanger avec les structures sur leurs problèmes de financement. Parce que le deuxième événement qui va beaucoup occuper le mois de l'ESS, il est plus large que l'ESS, ça s'appelle le PLF 2026.
Le plan,
pour ceux qui suivent l'actualité politique, j'allais y venir, en France, c'est le projet de loi finances qui est en ce moment en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec tous les enjeux politiques qu'on lit depuis plusieurs semaines. Et aujourd'hui, cette première version du budget est une coupe massive dans les financements de l'ESS, puisqu'on sait que les lignes de Bercy, qui nous concernent, accusent plus de 50% de baisse. Sur les questions de sport, jeunesse et vie associative, c'est 222 millions d'euros qui pourraient tomber, avec une vraie fragilisation du dispositif du service public. Je crois que pour vous, les radios associatives, on est à 44% du fonds de soutien en moins.
Tout à fait.
Etc., etc., etc. Ce qui pourrait provoquer ce qu'on appelle un plan social de licenciement massif, mais à bas bruit dans notre secteur.
Alors,
et donc le mois de novembre va être vraiment rythmé par les mobilisations et le plaidoyer pour qu'on essaye de pouvoir intervenir sur cette première version du PLF qui est vraiment tragique pour le secteur.
Le 11 octobre dernier, on a eu une opération massive des associations sur le « ça ne tient plus ». Le mois de l'ESS cette année, c'est une opération massive d'interpellation autour de « ça ne tient plus » pour tout le secteur de l'ESS, pas simplement les associations, mais aussi les coopératives et le monde mutualiste.
Le mois de l'ESS, de toute façon, chaque année, est une mobilisation massive pour parler de l'ESS. Depuis deux années, ces sujets de projets de loi de finances qui deviennent extrêmement défavorables à nos sujets tombent en novembre. Donc, de fait, si on parle d'ESS en novembre, au moment où un projet de loi de finances inique et cynique nous tombe sur le coin du museau, on en parlera beaucoup. Et bien sûr, pour répondre à votre sujet, Jean, on a beaucoup parlé des associations le 11 octobre et à raison. Aujourd'hui, on est très inquiet pour l'insertion par l'activité économique, où on a plus de 60 000 postes qui pourraient être menacés au niveau national. On a un sujet sur la question des complémentaires santé assurés par des mutuelles, donc des structures qui appartiennent à leurs sociétaires et qui sont non lucratives, avec un projet de loi de finances de la sécurité sociale qui augmente le reste à charge, qui transfère des dépenses hospitalières directement vers nos mutuelles et qui augmente fortement la fiscalité, qui risque de menacer chez elles aussi leur modèle économique, en sachant qu'il est basé sur la non lucrativité et la solidarité entre assurés.
Donc c'est tout un ensemble de structures qui assurent aussi notre bien-vivre au quotidien qui sont menacées.
Exactement. Et c'est de la dystopie, mais imaginons demain un monde où pour assurer notre santé, nous cultiver, prendre soin de nos plus jeunes, de nos aînés, confie plus que ça aux logiques de marché lucratif. Ça ouvrira ce type de sujet d'intérêt général à du pilotage purement gestionnaire et financier, puisqu'on sait que je vous refais pas mon pitch sur Orpea et le fait sur le nombre de couches comptées pour changer les personnes âgées dans une optique quand même de dégager du bénéfice pour des actionnaires. Et ça fera sauter plein d'espaces d'échanges démocratiques, puisque nos associations, nos mutuelles sont pilotées par des bénévoles qui s'investissent, qui échangent et qui seront des vrais espaces de dialogue et de régulation sociale. Et dans une société en train de se cliver comme en ce moment, on en a vraiment besoin.
Maria ?
Oui, je me pose une question. Je suis en train de me dire que finalement l'ESS, l'économie sociale et solidaire dont vous venez de parler à un long moment, en nous disant que ça représentait 15% des emplois privés, que c'était pratiquement tous les jours, nous faisons de l'ESS sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain faisait la prose. On peut même pas imaginer que ça puisse disparaître. Et pourquoi en faire une variable d'ajustement pour un budget, en définitive? Pourquoi c'est là-dedans qu'on tranche? En quoi l'ESS, porteuse de valeurs fortes, qui sont d'ailleurs françaises, liberté, égalité, fraternité, enfin, il y a tout ça, pourquoi l'ESS n'est pas reconnue, même si elle est soutenue parfois, probablement, je suppose, ben, la preuve, par des budgets qui lui sont adressés? En quoi l'ESS représente un danger?
C'est une question qu'il faudrait peut-être poser directement au Premier ministre, parce que lui seul sait ce qui a pu motiver
c'est notre invité demain matin,
projet de loi de finances.
Oui.
Voilà, c'est votre invité demain matin. Bah, écoutez, je reviendrai avec plaisir échanger avec monsieur Le Cornu.
Non, je plaisante, mais voilà.
Sur ce sujet. Alors, il n'a jamais dit que c'était un danger. Le discours officiel qu'on a, c'est un discours de rigueur et d'austérité budgétaire. On est par ailleurs régulièrement attaqué par des amendements du Rassemblement national. Là, le dernier en date est tombé vendredi. Ouais, il nous accuse d'être peu efficace et on a déjà entendu plutôt du côté de Wauquiez comme élément de langage pour refuser des budgets le fait qu'on soit un repère de l'extrême gauche. Je ne commenterai pas, je vous laisse apprécier la qualité du débat démocratique.
Sarah, est-ce que la question n'est pas plutôt, il y a des aides qui sont accordées aux entreprises, pourquoi le même niveau d'aide n'est pas accordé au secteur de l'économie sociale et solidaire sous toutes ses composantes?
Et pire, pourquoi est-ce qu'on tranche justement dans ces budgets? Là, justement.
Parce que c'est plus simple parfois, mais voilà. Oui, Sarah.
Alors, moi, je vous ai donné les éléments que j'avais officiellement. On va parler de rigueur globale et de se serrer la ceinture partout. Certains groupes à droite de l'échiquier, dont le RN, posent des amendements qui accusent de manière pour le coup inique, notre efficacité économique. Moi, je peux poser une hypothèse qui est que dans le logiciel de pensée économique de l'exécutif national aujourd'hui, les questions de démocratie économique, les questions d'ancrage territorial de l'activité et d'intérêt général ne sont peut-être pas au centre de l'activité économique. Et en cela, on est peut-être aussi malmené que les services publics et que le sujet qui va être posé globalement, c'est à quel type de société aspirons-nous, quel type de société porte notre exécutif aujourd'hui entre économie lucrative et rémunération des actionnaires avec un logiciel plutôt libéral ou attachement aux services publics, à la démocratie locale et à une forme de redistribution et de solidarité.
Reste que tout cela n'est pas anodin.
Merci Sarah d'avoir été à notre micro. Tout au long du mois, sur un calendrier que l'on retrouvera sur le site de la radio, il y aura 13 émissions, maintenant 12 consacrées à des associations, à des mutuelles, à des coopératives qui font notre quotidien. Mais comme le disait Sarah, au fond, notre quotidien à Radio FM+, c'est tous les jours qu'on le vit, puisqu'on accueille à longueur de journée, à longueur de programme, ce monde de l'ESS dont nous faisons complètement partie. Merci Sarah, à très bientôt, on se retrouvera j'imagine, pour faire le point en fin de ce mois. Et puis, d'ici là, on aura sans doute l'occasion d'échanger quelques minutes de musique, quelques secondes de musique. Et on se retrouve avec Caroline de Ruyck.
Au revoir.
Au revoir, Sarah. Au revoir. Thank you. Retour dans ce 10-10 consacré plus particulièrement au mois de l'économie sociale et solidaire, la première émission d'une série de 13. On était avec Sarah Rousseau, la directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On est maintenant avec Caroline De Ruyck, qui est la présidente d'une CAE. Alors là encore, CAE, c'est quoi? Ça sert à quoi?
Alors, c'est une
bonjour Caroline.
Bonjour, bonjour Jean. C'est une coopérative d'activité et d'emploi.
Une coopérative, donc, une des trois branches de l'ESS,
de
la famille des coopératives.
Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, une coopérative d'activité et d'emploi, c'est quoi? C'est une coopérative, une structure qui permet à des entrepreneurs, des porteurs de projets, de développer en toute sécurité leur activité propre, plutôt que d'être, par exemple, dans l'auto-entreprise, où on est un petit peu isolé. Bah là, ils ont choisi, nous avons choisi, parce que je suis aussi coopérateur à mon compte, dans cette magnifique CAE qu'est Créalide, et ils ont choisi en fait de développer leur activité en collectif par le biais effectivement d'une coopérative qui permet du coup de pouvoir tester son activité, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et puis de développer son activité et de se salarier de sa propre activité.
Tout en bénéficiant d'un accompagnement. Cet accompagnement, c'est par exemple une aide à la gestion, c'est de la formation, c'est peut-être même la prise en gestion de la boutique pendant qu'on développe sa propre entreprise sur son objet propre, parce qu'on n'est pas forcément comptable ou financier quand on est start-upper ou qu'on veut développer une activité artisanale.
Oui, exactement. En fait, c'est s'exonérer de toute la partie un peu rébarbative.
C'est une couveuse.
Ouais, alors, c'est une couveuse, mais c'est aussi pérenne. Parce que la définition d'une couveuse, c'est que c'est éphémère.
C'est sur un temps.
Voilà. Et là, nous, on est sur une longue durée, puisque ça devient en fait une activité qu'on pérennise grâce à la coopérative, parce qu'on devient associé de cette coopérative.
Donc, on peut rester sous ce format-là, dans la coopérative, quasiment tout au long de son projet professionnel.
Voilà. Après, si on a besoin de grossir, d'embaucher, de prendre des personnes en CDI, c'est un peu plus compliqué. On est obligé de sortir. Mais aujourd'hui, moi, ça fait 13 ans que je suis à Créalide, 13 ans que je développe mon activité. Et je n'ai pas besoin, en fait, de sortir. Je suis très bien à Créalide. Et mon conseil et mon entreprise marchent depuis 13 ans comme ça.
Donc, qu'est-ce que ça change en réalité pour le consommateur ou l'utilisateur des sociétés coopératives qui se trouvent effectivement dans Créalide? Est-ce qu'ils ne sont pas forcément informés de ça? Ils n'en savent rien.
Ah bah, en fait, moi, j'ai
vous faites de vous expliquer le fonctionnement quand même de particulier pour justement faire connaître ces systèmes parallèles, on va dire, à une économie très classique.
Oui, on doit quand même un petit peu expliquer. Donc, on expliquait plus il y a 10 ans que maintenant. Maintenant, c'est assez connu. Mais effectivement, on explique qu'on est dans un collectif et que le numéro de SIRET, c'est aussi le numéro de SIRET d'autres personnes. On est 300 à Créalide.
Sur le même SIRET?
Sur le même SIRET, tout à fait. Bon, après, il y a un établissement bâtiment. Donc, il y a deux SIRET pour il y a un SIRET distinct pour l'établissement bâtiment. Mais en fait, non, ça s'explique et puis ça se comprend et c'est classique. Hein.
Si c'est sur le même SIRET, là, on est un peu technique, ça veut dire que... tous les coopérateurs ont le même facturier d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est pas l'entreprise qui facture, c'est la CAE qui facture,
ouais,
c'est ça?
Tout à fait. Bon, on a des comptes analytiques qui fait que
bien sûr,
les activités sont bien différenciées. Mais effectivement, on bénéficie tous juridiquement du même portage quelque part.
Et alors, qu'est-ce que ça crée comme solidarité entre les gens hébergés dans la coopérative? Est-ce qu'il y a une communauté qui existe? J'allais dire, vous échangez entre vous, vous apportez de l'auto-formation, vous faites des fêtes, je sais pas.
Oui, on fait un peu tout ça. Non, parfaitement. Oui, effectivement, il y a une... en fait, tout seul, c'est un petit peu ennuyeux et ensemble, on va un peu plus loin. Donc, on a ces collectifs, on a des groupes métiers. On permet du coup de se rencontrer entre pairs, tous les consultants, tous les personnels.
Mais c'est ce que j'allais dire, quels sont les métiers représentés? Est-ce qu'ils sont très très différents sur une palette de tout ce qu'on peut trouver comme métier, ou est-ce que c'est plutôt axé sur des thématiques données? ou des métiers qui s'y prêtent, je sais pas.
Alors, c'est des professions non réglementées. On ne peut pas accueillir, par exemple, des notaires, des avocats, des architectes, des PLG, des choses comme ça. Des professions non réglementées, mais on a des personnes qui travaillent dans le bâtiment, donc aussi bien ingénierie que artisan du bâtiment. On a un pôle d'accompagnement, de consultants, coaching, c'est le pôle auquel j'appartiens, mais voilà. On a un pôle formation avec un organisme de formation. D'ailleurs, la loi de finances, là, nous inquiète un peu aussi. On a un pôle design, donc tous les métiers, en fait, du design d'espace, design d'objets. On a un pôle numérique, donc c'est un petit peu tous les métiers qui sont représentés à Cralid.
Okay. Et donc, je suppose que ça dynamise tout ça.
Ah oui, parce que
du
coup...
d'être très nombreux et d'être très différents.
Oui, du coup, on travaille ensemble parce que les complémentarités font les forces. Et on peut répondre, par exemple, à des appels d'offres ensemble. On a des marques communes. Moi, je fais partie d'une marque. On est 15 entrepreneurs de cette marque qui s'appelle Territoire Essence. On est tous différents. Mais notre cible, c'est les collectivités, les marchés publics. Donc, voilà, on est réunis sous une même marque ombrelle de manière à répondre à des marchés, à des enjeux territoriaux et de développement local.
C'est joli, Marc Ombrelle.
On l'évoquait tout à l'heure avec Sarah Rousseau, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie comme une autre.
De tous les jours.
De tous les jours.
Tout à fait. On est souvent d'ailleurs en concurrence avec l'économie classique. Moi, j'aime pas trop cette dissociation parce qu'on est dans l'économie et on gagne des choses par rapport à l'économie classique. Et nous, et moi, en fait, je suis appelée très souvent par des bureaux d'études ordinaires, enfin des gens qui ont des mêmes valeurs que moi, mais qui sont dans l'économie classique et on travaille ensemble. Enfin, j'aime pas en fait différencier les deux. On est dans l'économie.
Oui, mais est-ce qu'on peut penser, par exemple, que ces formes-là, que ce soit association, que ce soit coopérative et mutuelle, avancent, enfin, qu'il y en a de plus en plus, que c'est quelque chose qui commence à se mettre en place de façon plus régulière, plus pérenne, etc. Est-ce qu'on marque des points dans l'économie sociale et solidaire, si je résume ?
On marque des points forcément parce qu'on a, je trouve, une créativité, une capacité d'innovation et à réfléchir autrement qui est quand même assez pertinente. Et après, il y en a de plus en plus. On est de nombreuses CAE en France. Hein. Il faut savoir qu'on est 160 ou 170 CAE. Il y en a qui se créent quasiment tous les mois. Hein. Donc, c'est quand même une place très grosse sur le marché. Et la loi Hamon de 2014 a quand même, beaucoup fluidifié l'arrivée des CAE, puisque grâce au contrat d'entrepreneur salarié associé, qui a été développé, enfin qui a été promu par Benoît Hamon, on a pu sécuriser du coup cet ancien CDI et devenir un sésame. Là, je rentre dans la technique.
Vous parlez de sécuriser. C'est vrai que ce qui s'annonce là dans le budget, qui n'est quand même pas très positif à l'heure actuelle, c'est même plus qu'inquiétant. Quelle serait la solution pour vous ? Il faudrait que vous arriviez à devenir autonome et que vous ne touchiez plus aucun argent de l'État.
Il y a des CAE qui arrivent à s'affranchir très peu des subventions. On est passé de 30% de subventions à 12% de subventions. On a quand même une utilité sociale parce qu'on est en contrat avec le département, par exemple, pour les bénéficiaires du RSA. On les accompagne pour qu'ils développent leur propre activité. Donc, c'est aussi un non-sens qu'on n'ait pas de subvention à ce niveau-là. Et puis, le contrat CAP, parce que vous rentrez au début en contrat d'appui au projet d'entreprise et subventionné. Hein. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on apprenne à être plus résilient et à s'affranchir complètement des subventions, ce qui n'est pas évident. Hein,
parce que... qui n'est pas le cas non plus pour l'économie classique qui bénéficie d'aide de l'État.
Évidemment.
Tout à fait, ouais.
Alors donc, là aussi, même question qu'à Sarah tout à l'heure, est-ce qu'à un moment donné, la revendication principale, c'est que le monde de l'ESS soit accompagné au même niveau que le monde de l'économie classique, qui a des moyens de lobbying sans doute beaucoup plus puissants que vous ?
Bah oui, il faudrait.
Plus respecté aussi.
Et oui, il faudrait.
Plus respecté.
Et alors vous, dans ce mois de l'économie sociale et solidaire, vous y prenez une place particulière, vous en profitez pour vous faire davantage connaître, vous faites des portes ouvertes, non?
Alors nous, oui, effectivement, on a toujours eu une communication assez large vers notre cible qui sont les porteurs de projets. Donc on a deux réunions d'information par mois auxquelles on peut s'inscrire directement sur Internet. Donc là, c'est un peu le classique, hein, mais pour le coup, au niveau du mois de l'ESS, bah merci déjà de faire parler de Kralid par le biais de cette antenne, mais on reste effectivement vigilant en likant sur les réseaux sociaux et en repostant des choses, voilà, de manière à ce qu'on puisse être vraiment avec vous.
Il n'y a pas d'action plus militante qui consisterait, par exemple, pour toutes les associations, les mutuelles, etc., à faire une pause de 2 jours en disant on n'existe plus.
Ouais. Ce serait, ouais.
Ah, voilà, notre amie Maria est lancée dans un acte revendicatif fort. Mais ça ne tient plus, comme on dit dans le monde assis.
Ça ne tient plus, donc on s'arrête 2 jours, vous voyez ce que ça donne.
Oui, mais là, pour le coup, les entrepreneurs, ils ne gagnent plus leur...
C'est certain. Mais enfin, bon, il n'y a pas que... J'imagine mal que ça puisse s'arrêter.
Oui, parce que nous, on travaille pour les entreprises classiques, hein, pour le secteur privé. On travaille énormément pour le secteur privé, pour le secteur social, pour le secteur public et pour les particuliers, un petit peu moins pour les particuliers, parce que Kralid n'est pas spécialisé dans le particulier. Mais bon, si on s'arrête, on arrête de travailler nous aussi pour nos clients, quoi.
C'est comme le secteur de la santé,
donc
les
hôpitaux
ne sont jamais en grève.
On peut gripper un système, voilà. Même si on est une économie encore considérée par certains comme parallèle.
Oui,
encore considérée par certains.
Voilà. Je crois qu'on aura l'occasion de discuter de tout cela tout au long de ce mois, et en particulier, plus particulièrement donc, dans la deuxième quinzaine, avec tous les représentants qui viendront dans le 10-10 parler de leur association, de leur coopérative, de leur mutuelle. Voilà, merci pour votre attention. Je crois qu'on arrive au terme de ce 10-10. Aujourd'hui, c'était Yann qui était à la technique. Maria, Lou et moi-même avions le plaisir d'accueillir Sarah Rousseau et Caroline de Ruic, et puis vous pourrez retrouver le podcast de cette émission et les ressources qu'on a citées sur le site de la radio, radiofmplus.org. Bonne journée à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.